Les colloques du Collège de France.
Donc je donne la parole au professeur Nicolas Vins. Je vous ai dit tout à l'heure que les participants, c'était des gens que je connaissais depuis très longtemps. Et donc Nicolas a travaillé à Leipzig, aux États-Unis. Voilà, on s'est suivi, si je peux dire, pendant de nombreuses années. Et maintenant, il est professeur à l'université de Bordeaux, où j'ai moi-même été professeur jadis. Et il a surtout travaillé dans l'est de l'Eurasie, en particulier en Mongolie et dans l'Altaï. Et donc, il va vous présenter un peu le versant oriental de cette histoire. Nicolas, la parole est à toi.
Merci Jean-Jacques. Bonjour à tous et à toutes. C'est un grand plaisir d'être ici. Je vais vous parler un peu de l'Asie, qui est un territoire assez énorme, hein, comme on va le voir. Je vais commencer par certaines généralités sur l'Asie et qui vont aussi m'amener à vous faire comprendre que je ne peux pas parler de tout aujourd'hui. Donc on va parler un petit peu des modèles généraux qui régissent notre compréhension du peuplement de l'Asie par notre espèce et aussi donc avec ces histoires de transition qui sont un petit peu notre but de se rencontrer aujourd'hui, c'est-à-dire de discuter s'il y a des formes de transition qui peuvent être identifiées grâce à l'archéologie dans ces régions. Alors la première chose que je voudrais faire, c'est de rappeler quelques généralités sur l'Asie, qui sont des chiffres qui moi personnellement me donnent la tête qui tourne à chaque fois que je les relis. C'est un continent énorme, 45 millions de kilomètres carrés, ça représente en fait 30% de tous les terres émergées sur notre planète. 49 pays, 11 zones temporelles, ça veut dire 4 milliards, 200 millions habitants et un taux de croissance qui ne fait que s'accélérer. Donc on parle de 60% de la population humaine. Donc c'est donc le plus grand, le plus peuplé des continents et aussi un continent qui est qui a une densité de population particulièrement grande. Et puisqu'on en a parlé tout à l'heure, je voudrais rappeler que cette densité de population en Asie, en fait, n'est pas distribuée de manière égale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Asie a des centres de population dans le sud-est et dans le sud, mais la région qui va nous intéresser, nous, dans le centre, vous pouvez voir, elle n'est pas très peuplée. Finalement, la densité est assez faible et comme les questions l'ont suggéré tout à l'heure, la densité de population va être assez importante si on veut parler de transition et de communication entre les groupes, voire d'échanges culturels. Donc on peut se dire que durant le Pléistocène, cette région n'était sans doute pas très peuplée, en tout cas pas très, de manière très dense. Et c'est important donc de s'en souvenir. Je vais pas trop m'étendre sur cette dia parce que dans la salle, il y a des gens qui peuvent expliquer ça bien mieux que moi, mais je voulais rappeler quand même que la base de cet exposé doit postuler le fait qu'on considère l'origine de notre espèce en Afrique. C'est quelque chose qui doit être bien accepté par vous tous et vous toutes, mais il faut savoir que donc en Asie, ça reste parfois un petit problème de controverse, sujet de controverse, puisque tout le monde n'est pas convaincu que c'est le cas. Hein. Donc, comme Jean-Jacques l'a bien expliqué, c'est parfois difficile de rentrer dans des discussions sur la transition avec des gens qui ne sont pas d'accord sur des principes de base comme l'origine de notre espèce ou son lieu d'origine. On sait aujourd'hui qu'évidemment, il y a une profondeur temporelle importante de notre lignée en Afrique et puis que les données génétiques montrent aussi qu'il y a des mouvements de sortie d'Afrique, peut-être en plusieurs étapes, qui sont bien documentés. Mais alors quand on parle de l'Asie, il faut considérer sur cette carte que j'ai empruntée à la NASA, qu'en fait, vous voyez ici une carte très sombre et c'est normal, ce sont les parties pour lesquelles l'altitude est la plus moins élevée. Et les parties plus claires, c'est là où on a les régions où l'altitude est la plus élevée. C'est aussi simple que ça. Et vous voyez que cette partie centrale ici attire votre regard directement. Ce sont bien sûr les chaînes de montagnes du Pamir, du Tien Shan, de l'Hindou Kush, qui remontent jusque l'Altaï, avec le toit du monde, hein, donc le plateau du Tibet, les chaînes de l'Himalaya. Et au centre, ce point noir qui est ici aussi, on oublie parfois, un obstacle majeur pour les dispersions, qui est donc le désert de Taklamakan, désert particulièrement difficile à apprivoiser, si j'ose dire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en se déplaçant d'Afrique, eh bien, on va avoir le choix de passer soit au nord, soit au sud de ces obstacles. Il n'est pas possible de passer à travers directement jusqu'à des périodes très tardives. Et nous, en l'occurrence, on va se concentrer sur la partie nord, ce qu'on appelle la route nord. Donc les peuples qui vont passer sans doute d'Afrique vers l'Eurasie, ici, peut-être se diriger vers l'Europe, comme vous l'avez compris, mais aussi vers l'Asie, donc à travers la bande des steppes qui connectent à l'époque en fait un territoire qui s'étend juste de la mer de Chine jusqu'à l'Europe centrale. Et en termes d'environnement, parlons-en, vous voyez que cette zone des steppes, on l'a toujours matérialisée ici. La première chose qu'il faut observer, c'est que l'Asie a tous les types d'environnement. Vous avez ici du subtropical jusqu'à l'Arctique. Et donc, quand on va penser à ces deux routes de dispersion, il faut aussi penser à deux types d'adaptations très différents. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'adapter de la même manière de l'environnement en Inde qu'on va le faire ici dans la Sibérie. C'est assez évident, mais il faut s'en rappeler parce que ça va conditionner un peu finalement la manière dont l'archéologie va nous apparaître, les types d'objets qu'on va utiliser pour s'adapter. Je vais représenter donc cette dia, mais je pense que vous avez tous bien compris que dans ces 20 dernières années, une série de nouveaux fossiles ont un peu changé la donne par rapport à notre compréhension de la transition ou de la période de basculement, si on pourrait l'appeler comme ça, avec des fossiles qui sont 10 000 ans plus vieux que moi ce que j'ai vu à l'école quand j'étais sur les bancs de l'université au début, pour ce qui est de l'Homo sapiens. Et donc, ces fossiles vont changer la donne parce qu'ils nous plongent, comme Jean-Jacques l'a dit, dans la transition et suggère que certains auteurs de la transition, des ensembles transitionnels, devrais-je dire, sont en fait déjà des Homo sapiens au niveau de l'anatomie et sans doute, comme on l'a vu aussi, du comportement. Mais ces groupes, comme vous l'avez vu aussi, ont la particularité de montrer un contact biologique avec des populations antérieures qui sont donc en Europe, en l'occurrence des Néandertaliens. Dans l'Asie centrale et orientale, on va se concentrer sur deux fossiles. Le fossile de Ustishim qui datait de 45 000 ans et qui, ici représenté par un fémur, dont la morphologie, la génétique et les dates confirment bien clairement que nous avons Homo sapiens présent en Sibérie, en dehors de tout contexte archéologique, dans une zone extrêmement difficile, où il y a beaucoup de moustiques, c'est un des plus grands marécages de l'hémisphère nord. À 45 000 ans, nous avons déjà Homo sapiens, et 40 000 ans ici pour Tian Yuan, qui pourrait même être poussé un peu plus loin, indique que donc entre 45 et 40 000 ans, il y a une zone ici critique pour comprendre la dispersion de notre espèce dans ces régions. Et aussi, comme on l'a suggéré avec les résultats de Bacciochiro, on en a beaucoup parlé ce matin avec la belle présentation de Tsenka juste avant, on a des fossiles humains qui nous permettent de les comparer en termes de distance génétique avec les populations qui vivent aujourd'hui. Et bon, il y a des choses qui sont pas très surprenantes, c'est-à-dire qu'ils sont assez distants des populations africaines. On est après la sortie d'Afrique, avec cette rencontre initiale avec des Néandertaliens, mais des choses plus surprenantes, c'est-à-dire qu'on a une différence un peu moindre entre Bacciochiro et les populations asiatiques, vous voyez ici le code de couleur jaune, et les populations européennes. Alors, c'est interprété, je vous laisserai mes collègues généticiens expliquer ça mieux que moi après, comme une extinction locale de ces populations de 45 000 ans en Europe, mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a une survivance de ces populations en Asie, au moins dans des refuges ou de manière cryptique. La question, évidemment, c'est où et comment ces populations ont-elles survécu. Alors ici, sans transition, je vais passer, sans mauvais jeu de mots, je vais passer ici sur la présentation de deux exemples caricaturaux un peu de ces deux phases dont vous avez entendu parler ce matin encore et encore, la phase de développement initial du paléolithique supérieur et sa phase ancienne, pour bien marquer les esprits. Et après, on terminera par une série de questions qui peut-être, je vais essayer en tout cas de vous le suggérer, montrent qu'il y a d'autres phases entre les phases et donc que la situation se complique quand on augmente la résolution de notre enregistrement archéologique. Alors la région dont on va parler, c'est la région qui se trouve ici en A, J'ai choisi cet exemple parce que je travaille là-bas depuis une quinzaine d'années sur le terrain, mais en fait, ces deux phases peuvent s'extrapoler entre l'Altaï, le Transbaï, donc l'Altaï qui se trouve ici, le Baïkal et puis la Mongolie et même dans le nord de la Chine. Donc, c'est vraiment quelque chose ici qui est censé vous clarifier un peu la situation. Ce n'est pas une situation locale. Après, on parlera peut-être un peu de ce fossile qui se trouve ici, qui est sur la même latitude. On verra si on a le temps de faire ça. Mais je voulais aussi vous montrer donc un petit zoom. Vous voyez ce point blanc rouge là, pardon, en A. Et bien, si je zoome dessus, voilà ce qu'on a. C'est-à-dire que ce sont des régions pour lesquelles on connaît peu de choses. Hein, et je vais rester humble aujourd'hui sur mes explications, mais pour lesquelles, dès qu'on commence à s'intéresser un petit peu à l'enregistrement archéologique, on se rend compte que il y a beaucoup, beaucoup à documenter et à trouver. Donc ici, ce sont 10 ans, 15 ans de prospection que nous avons fait avec des collègues pour trouver tous ces sites dans la même vallée. Ici, je vais vous en présenter deux. Il y en a, ils sont localisés ici sur le flanc de la même montagne. Mais vous voyez que dès qu'on va dans la deuxième vallée à côté, ben, c'est la même chose. On trouve beaucoup de sites très localisés sur une rivière qui va être le principal contributeur au lac Baïkal. Donc c'est principalement ce site ici que je voulais vous montrer, Tolbor 16, que j'ai fouillé avec des collègues entre 2011 et 2016, et qui a présenté une séquence assez courte, hein, d'un mètre et demi. Vous voyez ici la profondeur des dépôts, avec un environnement assez changeant. Hein, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est la base qui nous intéresse. Les premières occupations humaines, datées de 45 000 ans, représentent ce qu'on appelle la phase initiale du paléolithique supérieur dans la région. Après, vous avez une série d'occupations qui remontent jusqu'à l'Holocène, mais rien en termes de paléolithique moyen, pour l'instant en tout cas. Nous avons sondé, nous n'avons pas trouvé. Alors ce matériel, je pense que vous commencez à vous y habituer aussi. On a des pointes qui ressemblent un peu à du Levallois ici, et qui sont produits sur des supports de lames, c'est-à-dire des trucs allongés, assez plats, qui sont ici vraiment une obsession dans la production. Ils ne produisent vraiment presque que ça. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de lames, et c'est d'autant plus important de le souligner parce que dans la période qui précède, dans les régions qui nous occupent ici, eh bien, il n'y a pas de lames. Il y a très peu d'industries, finalement, elles sont surtout sur éclats, et parfois, en Altaï, c'est du moustérien associé clairement avec des néandertaliens. Plus à l'est, c'est moins clair, mais il y a un clair manque d'antécédents pour ce genre de production qui semble apparaître comme ça, ex nihilo, d'un coup. Alors, je ne vais pas vous assommer de détails lithiques, mais en fait, ce qu'on observe ici, c'est quand même un système assez inhabituel de production de lames et extrêmement répétitif. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, nous, c'est plus la manière dont les objets ont été produits que les objets eux-mêmes. Ils sont produits de manière répétitive, standardisée et aussi inhabituelle, ce qui rend le système assez visible dans le paysage et nous permet de le suivre, en fait, et de supposer une certaine unité culturelle dans la culture matérielle. Mais il y a d'autres éléments aussi, on reparlait des petites lames et des burins ici, ce sont des choses assez similaires à ce que Tsenka a pu montrer en Europe centrale et orientale. Et vous voyez qu'il y a aussi toute une série d'objets osseux. Alors ici, je triche un peu, je suis dans la région du Baïkal, 300 km au nord, dans le même type d'ensemble, parce qu'en Mongolie, en fait, on a un problème de préservation de l'os. Si nous avions l'os bien préservé, il y a peu de doute qu'on aurait aussi trouvé ce genre de choses. Ici, vous avez des poinçons qui sont produits sur des métapodes de chevaux, pour la plupart, et qui sont datés directement. Alors ici, je vous lâche la petite info, c'est pas publié, mais c'est une date directe de 45 000 à 46 000 ans, donc qui est bien en phase avec ce que on connaît des dates, par ailleurs, des niveaux archéologiques. Ça, c'est pour ceux qui n'y croyaient pas trop à la date. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous. Et puis, alors, il y a c'est des éléments symboliques, hein, donc je ne vais pas trop m'aventurer sur ce terrain-là. Vous entendrez Solange Rigaud qui parlera tout à l'heure. Ça fait partie de l'attirail qui confirme l'identité paléolithique supérieure de ces ensembles. Et alors, en termes de distribution, comme je l'ai dit, il n'y a pas que deux ensembles dont je pourrais vous parler. On peut en parler des semaines. Hein. Vous voyez qu'il y a un groupe ici qui était apparu sur d'autres cartes. Eh bien, quand vous zoomez sur ce groupe, il y a encore plus de sites, et quand on zoome sur le zoom, ça continue. Mais on voit une série des dates qui commencent à se rajeunir très légèrement au fur et à mesure qu'on bouge vers l'est. Donc, potentiellement un mouvement de dispersion ou plusieurs mouvements de dispersion, et certainement pas quelque chose tel que Jerko l'a décrit, une profondeur et une longueur d'occupation de l'initial upper paléolithique, mais plutôt on a plutôt l'impression d'un instant assez bref dans la séquence. Voilà. Ensuite, on a la deuxième phase, donc le paléolithique supérieur ancien, hein, comme on l'appelle, qui correspond un peu à ce qu'on a ici en Europe, l'Aurignacien dans le sud-ouest et dans le reste de la France, enfin en fait partout en Europe, à partir de 40 000, hein, comme Tsenka l'avait dit. Et ici, une séquence qu'on vient de documenter, que nous sommes toujours en train de documenter, dans le site voisin de Tolbor 17. Alors vous voyez encore ces paysages stépiques bien ouverts, avec des orientations vers le sud, des sites qui ont été occupés de manière saisonnière, et ici, de manière répétée, entre 37 000 et 31 000, donc qui couvrent une portion de temps qui documente un peu l'évolution de ces occupations par petites... par superposition d'occupation, avec l'étude qui a, du feu qui a confirmé par Julia Gallo, qui est ici aujourd'hui, qui a confirmé qu'on avait du feu anthropique dans ces niveaux, de l'outillage osseux, et de la faune qui est mieux préservée cette fois-ci. Donc ça, c'est intéressant. Et puis alors, des objets à vocation symbolique, encore une fois, le travail de Solange. Vous voyez que le lithique ici, c'est un peu moins clair. Hein. Ça doit vous donner une impression d'un peu moins clair. C'est moins standardisé, en fait, que la période précédente. Il y a encore des lames, mais elles sont pas aussi fréquentes, pas produites de manière aussi complexe ou standardisée. Et alors, on a la récurrence de vieux types d'outils, hein, qui existaient durant le paléolithique moyen. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Peut-être la réinvention de ces racloirs, toute une série de grattoirs qui sont typiques du paléolithique supérieur, et alors l'apparition de ces petits nucléi à lamelles dont Jean-Jacques, Tsenka ont parlé, la miniaturisation des outillages qui est en marche, donc quelque chose qui est finalement, dans le domaine de ce qu'on connaît, plus à l'ouest, on n'est pas complètement perdu. Et ça, c'est intéressant, il faut le noter. En termes de faune, eh bien, on retrouve plusieurs taxons, hein, auroch, steppe, bison des steppes, cheval, des grands cervidés. Bon, parfois, il y a des caprinés quand on se trouve un peu plus dans les montagnes. Encore une fois, il y a des triades qui ne sont pas complètement exotiques. Un peu de mammouth, si vous allez vers le nord, en fait. Il semblerait que le mammouth descende parfois du lac Baïkal vers la steppe mongole et remonte en fonction des fluctuations climatiques. Et alors, ce qui diffère avec quand même ce qu'on a en Europe, c'est la présence des carnivores. Ils ne sont jamais loin. Et ça, à partir de l'Aurignacien, normalement, ici, c'est plutôt terminé. Hein. Les Aurignaciens arrivent à garder les carnivores en dehors de la sphère domestique. Si vous avez des exemples de loups, notamment d'ursidés, et alors plus intéressant aussi des oiseaux de proie. Alors là, on essaye peut-être de se concentrer sur l'idée que l'oiseau de proie peut arriver juste après l'occupation humaine pour faire du charognage, mais on a aussi des exemples, dès le paléolithique moyen, d'exploitation des oiseaux de proie pour des raisons un peu mystérieuses, notamment la production d'outils osseux. Ici, vous voyez le zoom sur ce petit os avec le côté un peu... vide, là, la cavité de médulaire là qui est bien ouverte, typique de d'oiseaux. Donc on essaye de peu élucider cette relation entre l'occupation humaine et des vautours, hein, puisqu'on parle vraiment d'oiseaux de proie. Et donc de petits outils osseux ici qui sont en cours d'étude. Ceci encore une fois, c'est le travail de Solange, hein, que vous allez entendre aujourd'hui. Merci, je la remercie de me prêter les dias, mais qui peut vous en parler plus en détail. Alors, des séries de perles en œufs d'autruche. Ça, c'est quelque chose qui est connu en Afrique, notamment chez les Kuntsan aujourd'hui et dans des périodes plus anciennes. Alors ici, n'y voyez pas un lien direct avec l'Afrique, on pense plutôt qu'il y a une convergence technique, en fait une distribution, enfin une dispersion certes, mais on le dit souvent en riant, une dispersion des autruches. Vous avez la matière première, je veux dire, à disponibilité, et il y a plusieurs cas de figure ici, encore une fois, Solange pourrait me corriger si je dis des bêtises, mais des lustres de polis d'usure, des transferts d'ocre sur les pièces, des traces de cisailles, d'objets coupants, parfois de la concrétion un peu naturelle qui va se mettre dessus, etc., etc. Et alors des objets très mystérieux que sont ces pendeloques en pierre, ou fragments de pendeloques. On continue à en trouver, hein, j'en ai encore des nouveaux de cette année, mais visiblement ça a été travaillé, mais voilà, le sens de tout ça n'est pas encore très, très clair. Donc en résumé, on a clairement, si on accepte une sortie d'Afrique de notre espèce, eh bien on a deux routes possibles pour se disperser en Asie. La route nord, eh bien, et la route sud impliquent des adaptations très différentes. Et vers le nord, on peut dire que vers 45 000 ans, eh bien on a une phase initiale telle qu'elle a été décrite en Europe centrale et orientale. En fait, très très similaire, de manière intrigante. Hein. Et par contre, on n'observe pas, à ma connaissance, ça dans le sud. Il y a d'autres scénarios. Deux phases, donc, la séquence elle-même se répète, en fait. La deux phases, 45 000 et 40 000, ça, c'est déjà étonnant. C'est que ça se répète entre le Kazakhstan, l'Altaï, la Mongolie, la Sibérie et le nord de la Chine, mais au-delà, puisqu'on continue dans la zone des steppes, on retrouve ce phasage qui est étonnamment familier. Donc là, il faut peut-être s'interroger sur les possibilités de contact le long de cette ceinture des steppes, pardon, entre l'Europe de l'Ouest et l'Asie, sans vouloir tomber dans des scénarios simplistes. Alors, en Asie, donc, on a donc un technocomplexe initial, qui a peut-être aussi des spécificités qui ne sont pas exactement celles qu'on observe en Europe. Et donc je rejoins Senka pour dire que peut-être que là on a la surface d'un iceberg et que si on pouvait avoir plus de résolution, on verrait qu'il y a des groupes, des cellules, peut-être ethnolinguistiques au sein de cette IUP. On ne parle pas exactement d'une culture au sens ethnographique du terme. Alors les questions que je voulais terminer, je vais terminer par une série de questions et lancer un peu la balle dans la salle pour voir si ça, voilà, si on peut avoir une pertinence pour le sujet d'aujourd'hui. La première chose, c'est de se dire, est-ce que finalement ça se passe partout comme ça en Asie ? Est-ce que cette espèce de connexion avec l'Ouest que je suggère, est-ce qu'elle est partout observée ? Eh bien non, en fait, ça renforce le modèle. Si vous regardez ce groupe de sites qu'on vient de survoler rapidement, eh bien, il est opposé à un autre groupe de sites ici, c'est le travail de Peiji Zhang, qui travaille comme postdoc ici à Pasea, et qui a étudié toutes ces industries de la Chine qui sont en fait montrent une absence totale de lame. En fait, on a une technologie au sein lithique, donc des outils de pierre taillée simplifiés. On a vraiment l'impression que la pierre n'est pas vraiment l'outil prépondérant, qui est plutôt un outil intermédiaire pour travailler peut-être des matières tendres telles que le bambou ou le bois, comme ça l'a été suggéré par d'autres avant moi. Mais ce qui est intéressant, c'est que vraiment on a une absence quasi totale de ce type d'industrie. Il y a des petites exceptions ici et au Tibet. Parce que, en fait, on est assis sur une zone de rupture biogéographique. Il y a deux mondes ici qui se côtoient, un monde paléo-arctique et de steppe, et un monde plus boisé. Et cette limite, en fait, elle bouge nord et sud en fonction des oscillations climatiques par le passé. Et donc, on a des extensions d'un groupe vers le nord et vers le sud. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour revenir sur ce fossile dont je vous ai parlé, il est trouvé en Mongolie, hein, c'est le fossile de Salkit, qui est un individu féminin, femelle de notre espèce, qui est daté de 35 000 ans, donc qui correspond à la phase deuxième phase de Paléosup dont je vous ai parlé, et qui est en fait, d'après les résultats génétiques, bien sapiens, hein, qu'on le dise, un mélange entre 75% de groupe Tianwan, cette souche qui est connue plutôt vers le sud-est de l'Asie, et 25% de groupe Yana qui est connue ici dans l'Arctique. Alors moi, ce que je vous suggère de considérer, c'est que Yana en fait est l'extension maximale au nord d'une population qui existait dans la steppe et qui se balade peut-être par là. Et ici, on a une population dont la zone d'émergence n'est pas très claire, mais plutôt sud-est. Et en fait, ce qui frappe vraiment, c'est la correspondance entre cette carte que je vous ai montrée avant et celle-ci en termes de génétique. Alors peut-être ici, on peut discuter de cette correspondance. Je n'essaie pas de dire que tout est explicable par la génétique ni par l'environnement, mais on a quand même ici une sacrée coïncidence. Alors sachez quand même que cette population ici, au maximum glaciaire, va passer à travers un goulot d'étranglement. Et ce goulot d'étranglement va permettre une survie d'une petite partie de ces populations qui ont vécu avant 20 000 ans. Et c'est peut-être par là finalement que le passage de ces gènes IUP qu'on retrouve à Bacho-Kiro va être possible en Asie. Et peut-être pas. En fait, je pense que l'extinction arrive bien avant ce qui concerne l'Europe, mais ici, on a beaucoup discuté finalement de cette discontinuité possible avant 20 000 ans, et ici, ce n'est pas le cas. Deuxième chose que je voulais amener sur la table, c'est finalement, est-ce que cette route nord est seulement utilisée par des Homo sapiens ? Ben, la réponse est non. Hein. Pendant longtemps, on se posait la question, même, moi j'ai eu beaucoup de retours négatifs de la part de cette route nord, à propos de cette route nord de la part de chercheurs russes, qui me disaient, c'est pas possible, c'est trop loin, ça va trop vite, qu'est-ce que tu imagines, ils n'ont pas l'avion. Eh bien, aujourd'hui, vous avez des preuves qu'au moins deux fois, les Néandertaliens ont emprunté la même route, depuis l'Europe jusqu'à l'Altaï, hein, dans la région de Denisova, ils avaient aussi une grotte qui s'appelle Tchagirskaya, qui est livrée du Néandertalien, et ça semble être l'extension maximale à l'est des Néandertaliens qui vont côtoyer un peu l'extension maximale occidentale, comme la carte de Jean-Jacques a montré, des Denisoviens. Et ce qui est important ici, c'est qu'ils ont voyagé avec leur équipement, et qu'une des occupations au moins amène une technologie qui existe et qui est bien reconnaissable en Europe orientale, cette technologie des Keilmesser en allemand, donc les couteaux abdo-bifaciaux. Et donc ça indique d'une part que les Néandertaliens, même avec des petits groupes, sont capables de maintenir une transmission culturelle. Ça c'est important, hein, parce que ça suggère un mode de transmission assez élaboré, et que ça aussi, on peut... Ça fait plaisir aux gens qui font des outils comme moi, lithiques, c'est qu'on peut utiliser ce genre de choses parfois comme proxy pour suivre des populations. Alors, le problème, c'est que les Néandertaliens, en fait, n'ont pas... leur technologie est vraiment différente de l'IUP, et là, je peux dire qu'on n'a pas de possibilité de penser une transition telle qu'elle. Les technologies sont très différentes, il n'y a pas trop de questions là-dessus. Et en ce qui concerne le Denisovien, bon, moi, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, vous en entendrez encore parler. C'est une lignée, hein, si je comprends bien, avec des groupes dont on ne connaît pas encore vraiment bien la variabilité morphologique, et dès lors comportementale non plus, mais ils sont dans l'enregistrement archéologique et fossile. Comme Jean-Jacques l'a dit, on commence à connecter des fossiles qui existaient avec cet ADN, mais c'est peut-être le cas, et sûrement le cas d'ailleurs pour les collections archéologiques aussi. Mais il va falloir faire un travail de connexion, et étant donné l'étendue géographique sur laquelle on retrouve ces fossiles, eh bien, il faut se dire qu'il peut y avoir une grande variabilité en termes de comportement également. Et donc c'est quelque chose qu'on verra explorer par la suite, mais pour l'instant tout ce qu'on sait c'est que ces Denisoviens, pardon, ce qu'ils produisent comme lithique est alors là vraiment rudimentaire, et au Tibet par exemple, on en parlait encore il y a quelques jours, il n'y a pas de possibilité de connexion directe avec l'IUP, donc encore une fois, en termes de transition, c'est raté. Par contre, on peut se demander s'il n'y a pas des transitions après la transition. On vous a parlé de ces deux phases emblématiques, ancien, initial, eh bien des travaux de ces dernières années. Moi, j'ai retrouvé sur des fouilles ces deux phases de manière répétée pendant 10 ans, et jusqu'au jour où il y a un site qui a donné une phase entre les deux, en sandwich entre initial et ancien, tel qu'on ne sait pas très bien comment l'appeler. À 42 000 ans, c'est un site qui s'appelle Tolbor 21, dans la même vallée. 42 000 ans, stratigraphiquement coincé entre l'initial et l'ancien, vous avez un ensemble qui ressemble fort à l'initial quand même, hein, mais qui a perdu certains de ses caractères les plus diagnostiques, et qui, en termes de parure, par contre, montre des choses assez audacieuses, puisque vous voyez ici, si je ne m'abuse, décrite par Solange et les collègues, comme la représentation phallique la plus ancienne de toute l'Eurasie, et qui est en fait un pendentif. Hein. Et si on considère que c'est vraiment phallique, si vous êtes convaincu, je sais que parfois il y a des débats sur le sujet, on peut ceci se dire que c'est une des représentations d'art figuratif les plus anciennes également. Ça c'est très important à mon sens. Ça veut dire que peut-être, comme on a parlé de vagues et de vaguelettes, que plus on va regarder avec une résolution plus importante sur ces grands événements qu'on vient de un peu présenter, je suis coupable de présenter une petite caricature de ces deux phases, mais on va trouver plus de résolution, plus de vagues derrière les vagues, et donc on a encore pas mal de travail à faire, mais ça pose la question ici de transition sur des termes, sur des éléments factuels que nous avons trouvés. Et pour l'instant, ces éléments factuels, entre le paléolithique moyen et le paléolithique initial, ils n'existent pas dans ces régions, et peut-être qu'ils existent justement au Proche-Orient. C'est pour ça que la profondeur d'occupation dont Jaco a parlé, la longueur de l'occupation et peut-être cette densité de population dans les petits endroits, qui est vraiment l'inverse de ce que je viens de vous décrire ici, est un substrat nécessaire pour ce type de transition. Alors voilà, tout ça est résumé sur une DIA ici, hein, je vais la laisser, je vais pas la lire en détail, je vous invite aussi à considérer que c'était une présentation très rapide, des concepts de base, et je n'ai pas la prétention de savoir encore ce qu'on va trouver demain. C'est une région extrêmement vaste et qui est très prometteuse, mais je voudrais insister vraiment sur ces deux choses. La connexion avec l'Ouest, en tout cas en ce qui concerne le Nord, l'Extrême-Orient et l'Asie centrale, elle est évidente pour moi en tant qu'archéologue. Simplement, on s'y retrouve dans les industries. Quand on a étudié l'Ouest, on arrive là-bas, on est un peu en terrain connu. Ce n'est pas du tout le cas pour le Sud-Est, c'est comme quelque chose de très différent. Pour ce qui est de l'Asie du Sud, à mon sens, c'est aussi assez différent, mais je ne vais pas trop m'avancer, parce que là, je ne peux pas être, on ne peut pas être au courant des détails partout. Mais cette connexion, retenez-la bien, parce que en ce qui concerne cette occupation, nous travaillons sur l'obtention d'ADN ancien qui viendrait des sédiments. Nous en avons obtenu. J'espère qu'un jour, on va pouvoir... parce qu'on attend les résultats de nos collègues qui sont toujours au labo en train de travailler sur cet ADN, vous en dire plus sur les propriétaires de ce merveilleux pendentif. Propriétaires ou propriétaires eux. Je vous remercie et je remercie tous mes collègues.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.